Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Tous, bienvenue dans Ici l'Europe. Vous êtes sur France 24 et Radio France Internationale en cette semaine qui a été riche en réunions de haut niveau à Bruxelles. À l'issue du premier sommet de l'Union européenne avec les États du Golfe mercredi 16 octobre et d'un Conseil européen réunissant les 27 le lendemain, beaucoup de déclarations mais peu de décisions concrètes et décisives à l'issue de cette séquence. Il a été question du Proche-Orient, de l'Ukraine, des migrations, entre autres. Alors, pour faire un tour d'horizon de cette actualité mondiale vue depuis l'Union européenne, nous avons le plaisir d'être en compagnie de son chef de la diplomatie, l'Espagnol Josep Borrell, haut représentant pour les affaires étrangères et la sécurité. Bonjour, monsieur Borrell.
Bonjour.
Je rappelle quand même que vous êtes un ancien ministre des Affaires étrangères en Espagne du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez, ancien président du Parlement européen aussi. C'était d'ailleurs votre dernier conseil, puisque vous quittez vos fonctions en décembre. Et puis, au sommet de jeudi, on a appris la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Je voudrais une première réaction déjà.
C'est une occasion pour finir la guerre. C'est une occasion pour insister pour que les otages soient délivrés, et les cessez-le-feu, et qu'on puisse commencer à penser à des solutions basées sur la recherche de la paix. C'était le chef de cette attaque terroriste il y a un an. Pendant un an, Israël a attaqué la bande de Gaza en essayant de les trouver. Il a trouvé la mort. Il reste encore une centaine de personnes, d'otages qui sont encore arrêtés. Il y a derrière plus de 40 000 morts. C'est le moment de dire assez, regardons dans le futur, lançons un projet politique pour trouver la paix entre les Israéliens et les Palestiniens.
Justement, d'ailleurs, je le rappelais en introduction, Josep Borrell, l'Union européenne a organisé son premier sommet avec les États du Golfe, dans l'espoir aussi de s'appuyer un peu sur eux pour peser sur la région. Est-ce que, pour vous, c'est une réussite ?
Oui, parce que je cherche depuis longtemps que les Européens et les Arabes travaillent ensemble pour cette paix, pour ce processus de paix. Et à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, on avait réussi à lancer un processus pour faire réalité l'État palestinien. Implementation, la mise en œuvre de l'État de la Palestine qu'on proclame depuis 30 ans que c'est le but de la communauté internationale. Oui, les Arabes sont venus, pas tous les Arabes, les pays du Golfe sont venus à Bruxelles. On a fait les premiers sommets entre les Européens et les pays du Golfe. Et je pense que la volonté de travailler ensemble entre ces deux régions est là. Donc, profitons de la circonstance.
Quand même, Josep Borrell, on note que l'Union européenne est la première contributrice de la région, en particulier pour la Palestine. Les 27 sont pourtant démunis lorsqu'il s'agit de peser au Proche-Orient. Est-ce que c'est parce qu'ils se sont désengagés, qu'ils sous-traitent finalement leur diplomatie aux Américains, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont trop divisés? Et où les deux?
Malheureusement, je dois le reconnaître, parce que c'est une réalité évidente, parmi les 27, il y a des positions très différentes vis-à-vis de ce conflit-là.
Expliquez-les-nous peut-être.
Il y a des pays comme l'Irlande, l'Espagne, la Belgique, qui sont très demandeurs d'un appui à l'État palestinien, qui ont même reconnu cet État avant même qu'il existe, qui mettent en question qu'on doit continuer à fournir des armes à Israël. Et de l'autre côté, il y en a d'autres, comme peut-être l'Allemagne, l'Autriche, qui sont au contraire absolument décidés à continuer à fournir de l'aide militaire à Israël sous le motto qu'il faut qu'Israël puisse exercer son droit à la défense. Ce que personne conteste, ça tout le monde est d'accord. Le problème c'est quelles sont les limites du droit à la défense, parce que le droit à la défense, comme tous les droits, ont des limites. Et les limites, c'est les droits humanitaires. Alors quand on voit ce qu'on voit de la destruction de Gaza, la question est pertinente. Est-ce que les droits à la défense s'exercent dans les limites de ces droits ou pas? Et là, vous aurez des opinions différentes.
Alors, on va parler du deuxième grand dossier, finalement, de ce Conseil européen, à savoir l'Ukraine. Les Européens se sont penchés sur ce conflit. Effectivement, Volodymyr Zelensky avait fait le déplacement jusqu'à Bruxelles pour se rendre auprès du Conseil des 27, mais aussi à l'OTAN. Il y a présenté son plan pour la victoire, qui exclut de céder du territoire ou de geler la ligne de front. Rappel de cette grande opération séduction de Zelensky à Bruxelles, avec Nicolas Chamontin.
Les dirigeants européens unis autour de Volodymyr Zelensky. Au sommet du Conseil européen, le président ukrainien porte son plan de la victoire pour mettre fin à la guerre contre la Russie, un objectif qui peut être atteint dès 2025 selon lui.
L'Ukraine est prête pour une véritable diplomatie. Mais pour cela, nous devons être forts. Une trêve imposée par la force au lieu d'une paix équitable n'a jamais assuré la sécurité.
À l'exception de la Hongrie de Viktor Orban, les 27 appuient la feuille de route de Kiev, un soutien réaffirmé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Parmi les points clés du plan de Kiev, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, dont les ministres de la Défense se réunissaient eux aussi à Bruxelles. Pour Volodymyr Zelensky, seule une invitation immédiate à rejoindre l'Alliance peut garantir la sécurité de son pays. Mais pour le secrétaire général de l'organisation, le moment n'est pas encore venu.
Cher Volodymyr, c'est un honneur de vous recevoir au quartier général de l'OTAN. J'attends avec impatience le jour où l'Ukraine se présentera ici en tant qu'État membre de cette alliance. Et jusqu'à ce jour, nous ferons tout ce que nous pourrons pour que l'Ukraine l'emporte. Cela est vital pour notre sécurité commune.
Autre réticence des Occidentaux, autoriser l'Ukraine à utiliser leurs armes contre le territoire russe. Un feu vert qui figure également dans le plan de Kiev au moment où Moscou progresse dans le Donbass. D'après Volodymyr Zelensky, 10 000 soldats nord-coréens s'apprêteraient à renforcer l'armée russe, une information non confirmée par l'OTAN.
Alors Joseph Borrell, qu'est-ce que vous avez pensé dans un premier temps d'ailleurs de ce plan de victoire présenté par Volodymyr Zelensky?
Il est tout à fait logique. L'Ukraine veut gagner la guerre. L'Ukraine veut récupérer les territoires que la Russie a occupés. Et pour ceci, il a besoin de notre aide. Et le but final de l'Ukraine, c'est faire partie de la communauté occidentale. Et ça veut dire être membre de l'Union européenne et aussi membre de l'OTAN. Mais pour ceci, pour gagner la paix, il faut d'abord gagner la guerre. Et elle nous demande de l'aide. Elle nous demande une aide accrue, qui arrive plus vite. Et il y a des choses dont nous, pour l'instant, on n'a pas été capable de fournir, ou même il y a des États qui ne veulent pas fournir, comme des armes de longue portée. Zelensky demande même la capacité nucléaire. Tout ça, c'est évidemment à étudier, mais pour l'instant...
Vous êtes pour les armes de longue portée, par exemple?
Écoute, le nucléaire, je préfère le mettre à côté. D'abord, c'est pas...
Et la longue portée?
Là aussi, il y a des points de vue différents parmi les États membres. Il y en a qui sont tout à fait décidés à dire qu'il ne faut pas seulement arrêter les flèches, mais aller chercher celui qui a les arcs, et d'autres qui ont peur de l'escalade. Mais en tout cas, c'est vrai que l'Ukraine ne pourra pas avoir la victoire sans l'aide occidentale des États-Unis et de l'Europe.
Mais alors, cette aide, elle se fait d'autant plus attendre qu'il y a toujours le même empêcheur de tourner en rond, j'ai envie de vous dire, Viktor Orban, en Hongrie, qui met son veto sur un soutien militaire renforcé de 6,6 milliards d'euros pour ce qui est de la facilité de paiement pour acheter des armes à l'Ukraine, qui met son veto aussi sur le versement total de 35 milliards d'euros promis par les Européens au G7 pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire face à finalement un veto qui est difficile à contourner? Vous aviez proposé d'ailleurs des solutions.
J'ai proposé des solutions. On est en train de les chercher. J'ai encore l'espoir qu'on pourra trouver une solution. Mais c'est vrai que voilà, l'Hongrie, et pas seulement l'Hongrie, on pourrait dire aussi peut-être d'autres pays, qui sont beaucoup plus sceptiques sur la possibilité de l'Ukraine de continuer à mener la guerre, qu'ils demandent la paix tout de suite. Mais la paix, quelle paix tout de suite? Tout le monde veut la paix, et celui qui le veut le plus, c'est les Ukrainiens. S'il y a quelqu'un qui veut arrêter de voir son pays détruit et ses hommes morts, c'est l'Ukraine. Mais quelle sorte de paix? La paix qui... Il ne faut pas confondre la paix avec la rendition. Et c'est là la question que sont en train de débattre. Et j'ai encore la tâche de trouver des solutions pour que l'Hongrie ne bloque pas les versements de quantités importantes pour l'aide militaire à l'Ukraine. Et je pense que, comme je vous dis, qu'on va y arriver au prochain Conseil.
Alors, Viktor Orban a dit que, donc, au sommet de la communauté politique européenne, 2 jours après l'élection américaine, il allait sabrer le champagne en cas de victoire de Trump. Viktor Orban, qui était un peu sur tous les fronts à l'occasion de sa présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, qui s'est rendu, on le sait, à Kiev, puis à Moscou, puis en Chine. Est-ce qu'il essaye de vous faire de l'ombre, finalement? Il a décidé d'être grand diplomate en chef?
Vous savez, les États membres de l'Union, chacun reste maître de sa politique étrangère. Chacun a la sienne. Et on veut en bâtir une qui soit commune. Commune, mais pas unique. Et la preuve qu'elle n'est pas unique, c'est que le pays qui a la présidence rotatoire du Conseil, pas du Conseil européen, de l'autre Conseil, fait un peu chevalier seul en défendant ce point de vue, en allant à Moscou, en Chine, en essayant d'expliquer comment l'Hongrie voit ça. Il y a une certaine confusion entre le rôle d'un pays, l'Hongrie, et la présidence du Conseil, mais la confusion n'est pas là parce que la présidence du Conseil n'a pas de compétences en la politique extérieure de l'Union. Elles ont été transmises aux représentants. Ça, c'est difficile de comprendre pour le commun des gens, mais il faut le savoir. La présidence rotatoire n'a pas de compétences en politique étrangère, donc M. Orban peut dire ce qu'il veut en tant que président de l'Hongrie, au premier ministre de l'Hongrie.
Alors, justement, on parlait de cette élection américaine du 5 novembre qui va peser sur le dossier ukrainien, c'est certain. Est-ce qu'il y a des visions très différentes pour vous de ce conflit entre une Kamala Harris et un Donald Trump, et sur quel point?
Oui, il y a des différences, sans doute. Écoutez, Donald Trump a dit qu'il serait capable d'arrêter cette guerre en quelques jours, en une semaine.
Oui.
Oui.
Et alors, vous le croyez?
Vous pouvez imaginer comment on peut arrêter une guerre dans une semaine. Et Kamala Harris n'a pas dit des choses pareilles. Elle est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus, je pense, du côté de continuer l'aide à l'Ukraine. Parce que l'aide à l'Ukraine, on ne la fait pas parce qu'on est généreux, on est des bons copains avec l'Ukraine. On aide à l'Ukraine parce qu'on pense que l'Ukraine, quand elle défend aussi l'Europe, elle défend aussi la sécurité européenne. Imaginez-vous quels seraient les résultats si l'Ukraine devait se rendre. Vous auriez un gouvernement poupée à Kiev, exactement comme il a déjà en Biélorussie. Vous aurez l'armée russe à la frontière polonaise. Vous auriez la société ukrainienne sous les cracks. Et vous auriez la Russie en train de contrôler le marché mondial du blé et d'autres situations géopolitiques que, du point de vue de nos valeurs et nos intérêts, nous devrions essayer d'éviter. C'est aussi dans notre intérêt d'aider l'Ukraine. Alors, c'est pas seulement un acte de générosité.
On a senti quand même que le ton était en train de changer sur un autre chapitre lors de ce sommet européen, sur les migrations, où même la présidente Ursula von der Leyen propose des hubs de retour pour les migrants illégaux vers les pays tiers. Vous avez beaucoup insisté pendant votre mandat sur le nécessaire dialogue équilibré avec l'Afrique. Est-ce que c'est intéressant ou fructueux quand on leur parle que de migration? Parce qu'on leur parle que de migration.
C'est une grande erreur des Européens. Et je pense qu'il y a des approches que je ne partage pas. De voir l'Afrique seulement sous les yeux d'un continent qui a un excédent démographique, c'est-à-dire de la migration. L'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. L'Afrique, c'est un continent énorme, varié. oui, qu'il a une dynamique démographique bien plus puissante que la nôtre. Nous sommes dans un hiver démographique, ils ont une jeunesse qui cherche un avenir. Mais penser que l'Afrique, c'est seulement une menace parce qu'il y a des mouvements migratoires, et oublier sa dynamique économique et sa capacité de produire tout ce qu'il nous faut, à commencer par les matériaux critiques, son rôle géopolitique dans le monde aujourd'hui, c'est un aveuglement. Nous, Européens, nous ne pouvons pas regarder seulement l'Afrique sous les yeux de la migration. Et encore, la migration, il faut savoir qu'on en a besoin.
Alors la migration, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit un durcissement, une Europe qui a beaucoup basculé plus à droite lors des dernières élections européennes, et donc ça a été suivi d'ailleurs par aussi des élections dans les pays européens qui voient des victoires de la droite plus radicale. Est-ce que finalement cette question migratoire, cette stigmatisation des migrants, cette idée de sous-traiter à l'extérieur toutes nos questions de droit d'asile, c'est la bonne direction selon vous?
Moi, je ne partage pas cette approche. Je suis un homme de gauche. Et oui, l'Europe bouscule la droite, a bousculé la droite, pas autant qu'on avait pensé au début. Mais c'est vrai que la dynamique politique vis-à-vis des problèmes migratoires, aujourd'hui, a une dominante des valeurs jusqu'à maintenant représentées par la droite.
Joseph...
Et attendez un moment, par ça je ne veux pas dire que la migration irrégulière ne soit pas un problème. Bien sûr c'est un problème, bien sûr il faut protéger nos frontières, bien sûr il faut faire de sorte que les migrants arrivent d'une façon ordonnée, qu'ils ne mettent pas sa vie en péril et qu'ils ne créent des problèmes d'intégration. Bien sûr, tout ça c'est tout à fait vrai. Mais comme disait le Premier ministre espagnol, il faut chercher une approche un peu plus équilibrée. La dynamique de la peur ne peut pas dicter la politique migratoire. Parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays européens, sont un certain nombre d'immigrants, d'apport de jeunesse, de capacité de travail, nos sociétés ne marcheraient pas.
Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, 5 ans de mandat, vous le terminez dans quel état d'esprit? Quelles sont vos réussites et vos regrets?
Je pense que l'Europe a besoin de s'intégrer plus. Qu'on a encore trop de réflexes nationaux, qu'on ne se rend pas encore assez compte que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des géants, un monde difficile où la force est redevenue comme le grand argument, les Européens, chacun de son côté, sont trop petits. Il faut absolument qu'on fasse une politique beaucoup plus européenne, beaucoup plus intégrée. Et je trouve que les réflexes nationaux sont encore beaucoup trop forts.
C'est Kaja Kallas d'ailleurs qui vous succède, une Estonienne très ferme sur les conflits à l'Est qui la passionne forcément puisque son pays est voisin de la Russie, mais peut-être moins intéressée par le Sud global.
Tu ne penses pas qu'elle soit plus ferme que je l'ai été vis-à-vis des conflits dans l'Est? Je pense que j'étais aussi ferme qu'il fallait l'être. Mais ce conflit est un conflit existentiel pour l'Europe. Sans doute, ce n'est pas le seul auquel il faut faire face.
Vous avez des regrets du côté du Sud global, par exemple de l'Amérique latine? Est-ce qu'on a dénoncé un peu vite des traités comme le Mercosur, mais pas tellement favorisé nos rapports avec l'Amérique latine?
Moi, je fais un grand effort pour mettre l'Amérique latine dans l'écran radar de l'Union européenne. Elle n'existait pas, ou presque. Maintenant, on se rend compte que c'est un géant économique aussi, et qu'on a un grand intérêt à avoir avec l'Amérique latine des rapports beaucoup plus forts que les rapports historiques et culturels qui, dans certains pays, sont très importants et dans d'autres, moins importants. Et je pense qu'on pourrait signer cet accord Mercosur, qu'on discute depuis une vingtaine d'années. En tout cas, aujourd'hui, l'Amérique latine est beaucoup plus présente, pas seulement en tant qu'un problème politique, mais en tant qu'une réalité économique on ne peut pas la négliger.
Merci Joseph Borrell d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez en notre compagnie. L'actualité continue.